Dans la deuxième partie des chapitres 4 à 10, chapitre 6, versets 1 à 3, appel pressant à se réveiller. Les trois premiers versets du chapitre 6 sont la continuation du dernier verset du chapitre 5. J'ai cru longtemps qu'il devait être mis dans la bouche du peuple, mais la structure de tous ces chapitres m'a convaincu depuis qu'ils sont prononcés par le prophète et ne sont pour le moment qu'une invitation à laquelle le peuple ne répond pas. « Venez, dit-il, retournons à l'Éternel, car lui a déchiré et il nous guérira. Il a frappé et il bandera nos plaies. » Ô merveilleux appel de la grâce, à ces âmes courbées sous la douleur de la tribulation et auxquelles Dieu a enlevé toute ressource. Plus de montagne vers laquelle le pauvre oiseau, menacé des flèches de l'oiseleur, puisse s'envoler. Ce refuge, du moins, aurait offert quelque stabilité. Il est ôté. Dieu cache sa face, et l'âme en est épouvantée. Psaume 11, verset 1 et 30, verset 7. Il ne reste plus de ressources qu'en lui. Retournons à lui. Comme un lion, il a déchiré le royaume à cause de nos péchés. Il nous a justement frappés. Qui pourra recoudre, bander, guérir les plaies, sinon celui qui les a faites? On sent ici la profondeur de l'humiliation, comme l'homme de Dieu seul pouvait la sentir, mais avec la foi pour soutien. La foi seule, en de telles circonstances, nous pousse à nous approcher de Dieu. Mais quelle réponse elle trouve? N'est-il pas bon d'avoir été affligé pour trouver une telle délivrance? Avant que je fusse affligé, j'errais. Psaume 119, verset 67. La chose n'est exprimée ici qu'à l'état d'espérance, mais d'une espérance réalisée par le prophète comme une certitude. Dans deux jours, il nous fera vivre, au troisième jour, il nous mettra debout, et nous vivrons devant sa face, et nous connaîtrons, et nous nous attacherons à connaître l'Éternel. Versets 2 et 3. Aussi certainement que Dieu a ressuscité leur Messie d'entre les morts, car je ne doute pas que ce passage ne sous-entende la résurrection de Christ, Dieu ressuscitera aussi son peuple. Il est sans doute question ici de leur résurrection nationale, telle qu'elle nous est décrite au chapitre 37 d'Ézéchiel, ce qui explique les deux jours nécessaires pour les faire revivre et le troisième pour les mettre debout. De même, en Ézéchiel, les ossements ne se tinrent sur leurs pieds par la puissance du Saint-Esprit qu'après avoir été auparavant vivifiés. Ézéchiel 37, verset 10. Cette résurrection nationale, comme notre résurrection corporelle, à nous, chrétiens, est donc liée à celle de Christ. Si les vagues et les flots du jugement ont passé sur le Messie, ils passeront aussi sur le résidu d'Israël, qui en sortira, comme Christ en est sorti, en résurrection. Le troisième jour est le jour où, selon l'Esprit de sainteté, Dieu intervint en puissance pour ressusciter Jésus d'entre les morts. C'est à quoi tout l'Ancien Testament rend témoignage. Christ, dit l'apôtre, a été ressuscité le troisième jour selon les Écritures. 1 Corinthiens 15, verset 4. En effet, les Écritures nous montrent Isaac sous la sentence de mort jusqu'au troisième jour, où il est ressuscité en figure. Jonas, type de Christ, mais aussi du résidu, jeté à la mer tandis que le vaisseau des nations continue sa route, englouti dans le Shéol, est rejeté le troisième jour sur la terre. Partout, la résurrection de Christ est annoncée comme étant la conséquence nécessaire de sa mort. Au psaume 16, il ne voit pas la corruption et connaît le chemin de la vie. Au psaume 110, il monte en résurrection à la droite de Dieu après qu'au psaume 109, le méchant l'a fait mourir. Verset 16. Au psaume 8, il est couronné de gloire et d'honneur après avoir été fait, par la passion de la mort, un peu moindre que les anges. Tout cela, il l'a traversé pour son peuple céleste, mais aussi pour son peuple terrestre. Quand, au psaume 42, toutes les vagues et tous les flots de l'Éternel ont passé sur l'âme de Christ et sur celle du résidu, ce dernier peut dire « Il est le salut de ma face et mon Dieu ». Mais il y a plus encore ici qu'une résurrection nationale. Le prophète dit « Nous vivrons devant sa face et nous connaîtrons et nous nous attacherons à connaître l'Éternel. » versets 2 et 3. Une résurrection spirituelle est le fruit de la grâce et accompagne la nouvelle alliance faite avec Israël. C'est l'aube du jour millénaire. Sa sortie est préparée comme l'aube du jour, et il viendra à nous comme la pluie de la dernière saison arrose la terre. Verset 3. Ce ne sera plus, comme à la Pentecôte, la pluie qui accompagne les semailles, mais la pluie qui précède l'heureuse moisson du siècle à venir. Une nouvelle effusion du Saint-Esprit sera la part de ce peuple restauré. Ce passage, dicté par l'Esprit de Dieu, est propre à faire passer dans l'âme d'Israël, mais aussi dans la nôtre, quelque chose de sa délicieuse fraîcheur, car il nous occupe de Christ, de sa mort et de sa résurrection, gage assuré de l'avenir d'Israël et de notre part éternelle avec le Seigneur. Versets 4 à 11, le débat s'accentue et se fait plus pressant. Comme au chapitre précédent, Éphraïm et Juda sont unis ici dans la même réprobation. Que te ferai-je, Éphraïm? Que te ferai-je, Juda? Votre piété est comme la nuée du matin et comme la rosée qui s'en va de bonne heure. Verset 4. Que te ferai-je? Comme cela s'adresse à la conscience. Réponds toi-même, diras-tu, ton jugement est juste? Leur piété n'avait duré qu'aux toutes premières heures de leur existence comme nation, puis s'était envolée et avait disparu comme la rosée au lever du soleil. Après s'être adressé au peuple d'Israël, Dieu étend son appel à tous les hommes. Et mon jugement sort comme la lumière, car j'ai aimé la bonté, ou la grâce, et non le sacrifice, et la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. Mais eux, comme Adam, ont transgressé l'alliance. Ils ont agi perfidement envers moi. Versets 5 à 7. Si sa grâce sort comme l'aube du jour, verset 3, son jugement sort comme le soleil quand il lui donne sa force, verset 5. Certes, ce n'est pas Dieu qui désire le jugement, c'est l'iniquité de son peuple qui l'y oblige. Dieu veut chez l'homme la bonté et non pas les sacrifices. Mais son désir resterait stérile s'il s'agissait de ce que l'homme peut offrir. Où trouver la bonté dans le cœur d'un homme? Aussi, Dieu ne se borne pas à cette exigence. Il veut ce qui se trouve dans son propre cœur à lui, la bonté sous forme de grâce et de miséricorde. La bonté qu'il aime, c'est la grâce envers le pécheur, la grâce venue par Jésus-Christ. Quand les yeux de Dieu se reposaient sur cet homme, il pouvait dire « J'ai aimé la bonté ». Cette bonté est allée jusqu'au sacrifice, au seul sacrifice que Dieu put accepter, car il n'a pris plaisir à aucun des sacrifices des hommes. Psaume 40, versets 6 et 7. Aussi le Seigneur put dire « À cause de ceci le Père m'aime, c'est que moi je laisse ma vie ». Jean 10, verset 17. Le Seigneur cite deux fois ce passage du verset 6 dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 9, verset 13 et 12, verset 7. La première fois, pour montrer que rien ne peut satisfaire le Seigneur que sa propre grâce, la seconde fois, qu'il ne peut aucunement compter sur la bonté dans le cœur de l'homme. De même, tous les holocaustes que l'homme pouvait offrir ne valaient pas la connaissance de Dieu, verset 6. Dieu s'est fait connaître à nous dans la personne et l'œuvre de son Fils. C'est la grâce, le salut, la vie éternelle. Mais eux, comme Adam, ont transgressé l'alliance. Là, ils ont agi perfidement envers moi. Verset 7. Au lieu de commencer par la connaissance de la grâce, Juda et Éphraïm avaient été mis à l'épreuve, sous l'alliance de la loi, car il leur fallait apprendre ce qu'il y avait dans leur propre cœur. Au commencement, Adam, placé comme Israël sous sa responsabilité, avait transgressé une alliance qui lui avait été imposée. Israël avait-il mieux agi quand Dieu lui imposait l'alliance du Sinaï? Non, dit l'Éternel. Là, ils ont agi perfidement envers moi. Au verset 8 à 10, le prophète revient à Éphraïm. Ce va-et-vient, de l'un à l'autre, est des plus touchants, montrant l'angoisse, la sollicitude pour Israël, l'indignation du fidèle prophète qui voit son Dieu méprisé de la sorte. Galaad est une ville d'ouvriers d'iniquité, couverte de traces de sang, et comme des troupes de voleurs guettent un homme la bande des sacrificateurs assassine sur le chemin de Sichem, car ils commettent des infamies. J'ai vu des choses horribles dans la maison d'Israël. Là est la prostitution d'Éphraïm. Chose affreuse. Les villes de refuge elles-mêmes, Galaad, ou je crois Ramoth de Galaad, au-delà du Jourdain, et Sichem, en Éphraïm, assignés aux Lévites, étaient devenus des lieux de brigandage. Les sacrificateurs eux-mêmes assassinaient, sans doute sous prétexte d'être des vengeurs du sang, ceux qui se rendaient à Sichem. Ils dépouillaient des innocents en couvrant leur meurtre du manteau de la loi. C'était dans le domaine d'Éphraïm, chef desdites tribus, que se commettaient les pires infamies. Mais voici que le prophète, selon son habitude, passe sans aucune transition d'Israël à Juda, auquel il venait de dire « Que te ferai-je, Juda ?» et lui jette un regard de compassion. « Pour toi aussi, Juda, une moisson t'est assignée, quand je rétablirai les captifs de mon peuple. » Verset 11. Ne semble-t-il pas que l'Éternel devrait dire « Pour toi aussi, Juda, le jugement aura lieu ?» Non. Dieu aime la bonté et se détourne du jugement pour considérer ce qui le suivra. Sans doute, Juda ira en captivité comme Éphraïm, mais cette captivité prendra fin. Nous trouvons ici le terme si souvent employé dans les prophètes, traduit littéralement « je tournerai la captivité », c'est-à-dire « j'y mettrai fin pour amener la restauration de mon peuple ». C'est comme un avant-goût de l'Évangile. Dieu annonce sa grâce à Juda coupable. Une moisson t'est assignée. Non point cette moisson terrible où le Fils de l'homme mettra sa faucille tranchante sur la terre pour la moissonner. Apocalypse 14, verset 16. Mais une heureuse moisson appartenant à Juda, aux captifs de Sion, quand ils diront « Ô Éternel, rétablis nos captifs comme les ruisseaux dans le Midi. » Et qu'il leur sera répondu « Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chants de joie. » Psaume 126, versets 4 et 5. Quel cœur que celui de notre Dieu! Jamais il ne trouve son repos dans ses jugements. À peine a-t-il annoncé les calamités qui atteindront le peuple pervers et les hommes qui habitent sur la terre, qu'il s'arrête et vient trouver son repos dans le déploiement de sa grâce. Laissant ainsi le corbeau du déluge se repaître de quelques cadavres ballottés par les flots, la colombe vole à son arche, à son lieu de repos, portant dans son bec l'emblème de la paix qui va succéder au naufrage.